morning edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18-20.
Est-ce vraiment encore la question des armes qu'il faut tordre aux États-Unis ou est-ce peine perdue? Est-ce l'échec de Joe Biden qui s'implique depuis 1994 à casser ce lobby aux États-Unis? Est-ce la démocratie américaine qu'il faut interroger sa lecture rigoriste de la Constitution? Que faire dans un pays où circulent plus d'armes que d'habitants? Pas sûr qu'on trouve des réponses ce soir, hélas, on essaiera quand même. Le bruit du monde est au Bénin ce soir avec la fermeture provisoire de l'exposition des 26 œuvres rendues par la France que les Béninois ont été très nombreux à voir, plus de 200 000. Elle va rouvrir cette exposition. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Leogeni a trouvé le Zimbabwe qui ne sait plus quoi faire de ses éléphants et de leur défense. Le Vietnam qui a chez lui le cybercriminel le plus connu de la planète et l'Argentine qui a retrouvé son dragon de la mort. À 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec nous depuis Cannes avec un petit bilan des films étrangers de la quinzaine et un mot du Cronenberg qui sort ce mercredi. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, qui a bien vu que 70 personnes ont disparu en Méditerranée, 70 migrants invisibles. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur agrégé en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon. On vous lit très régulièrement, Corentin Célin, dans Les Jours. Et comme d'habitude, je ne sais pas très bien par où commencer, en fait, dans cette tuerie au Texas qui tue donc 19 enfants et 2 adultes, la pire tuerie depuis Sandy Hook en 2012. Et depuis Sandy Hook, il y a eu 3500 tueries. Alors, on va le dire comme ça, Corentin Célin, plutôt que de tourner autour du pot, est-ce qu'il y a une issue à ce problème, sincèrement ?
Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est vraiment souligner d'abord quand même l'horreur de l'événement lui-même. On a appris dans la journée que les 19 enfants qui avaient été tués étaient tous des élèves d'une même classe de CM1, ce qui rajoute encore à l'horreur. Et malgré cette horreur, il n'y a aucune issue à court terme. On s'en est déjà aperçu, puisque dans la journée, évidemment, le choc est terrible aux États-Unis. Certains élus démocrates ont invité leurs collègues républicains au Sénat à les rejoindre, et ceux-ci, qui disent pourtant prier en faveur des victimes, etc., ont déjà fait entendre que non, ils ne voteraient pas des lois supplémentaires de régulation des armes à feu. Donc, on ne voit pas à court terme d'issue dans, j'allais dire, la polarisation politique qui s'est opérée sur cette question des armes à feu, mais pas seulement sur cette question des armes à feu.
Alors, on va y revenir d'ailleurs ensemble, et j'ai envie d'ajouter, particulièrement dans un État comme le Texas, Corentin, qui a une législation des plus permissives sur l'ensemble du territoire.
Oui, alors absolument. Hein, il faut rappeler que le Texas, mais ça fait partie de sa, comment dire, de son glissement vers un conservatisme radical, avec à sa tête le gouverneur Abbott, qui lors de sa première élection regrettait que le Texas ne soit pas l'État avec le plus d'armes à feu en circulation.
Deuxième derrière la Floride.
Ouais. Procureur. Voilà, où son procureur général Paxton, qui vient d'être réélu en primaire républicaine cette nuit triomphalement, qui lui, quelques minutes après la tuerie du Valdez, recommandait d'armer encore plus les enseignants pour protéger les élèves. Donc on a une culture de l'arme à feu, on a une culture effectivement de la permissivité, de l'accès complet aux armes à feu au Texas, et qui explique pourquoi le Texas est un lieu privilégié où, pour ces tueries de masse qui y surviennent, bien plus souvent qu'ailleurs.
Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Fermez les guillemets, c'est Joe Biden qui parle, dont on sent bien évidemment l'émotion, mais ça fait plus de 20 ans qu'il essaye d'affronter le lobby des armes. Ça fait plus de 20 ans, en 94, il était déjà sur le front. En 2012, après Sandy Hook, c'était lui aussi chargé par Barack Obama. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un échec pour Joe Biden? C'est pas faute d'avoir essayé, mais un échec aussi pour Joe Biden?
Oui, mais je crois qu'il faut quand même rappeler un fait historique et qui marque la gravité de la situation actuelle en 2022. C'est qu'en 1994, Biden, il avait réussi. Il avait réussi à être le négociateur en chef d'une loi d'interdiction des armes semi-automatiques, les armes d'ailleurs qui sont privilégiées par les tueurs de masse. Ces fameux fusils semi-automatiques qui sont en fait des fusils de militaires et qui sont des armes militaires adaptées au mode civil. En 1994, une interdiction fédérale avait été votée à l'initiative de Joe Biden. Parce qu'à l'époque, c'était encore possible de faire du consensus au Sénat où il se trouvait. Et cette loi n'était malheureusement que pour 10 ans, et depuis 2004, elle n'a pas été renouvelée par le Congrès. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que 20 ans plus tard, en 2013, quand Biden a été nommé par Obama comme son monsieur arme à feu, comme son monsieur lutte contre les tueries après Sandy Hook, là, il a été incapable de faire voter le Sénat. Et on voit bien aujourd'hui justement que Biden, homme du Sénat du passé, d'un Sénat consensuel, ne peut rien faire à part des prières et des imprécations. Et c'est vraiment, je trouve, un témoignage de ce qui a glissé aux États-Unis en ce domaine.
Et pourtant, il y a quand même, Corentin Célin, il y a une coalition anti-gun qui émerge aux États-Unis, ça existe. Et quand on pose la question aux gens, les armes, ils veulent les garder, ça c'est une réalité, mais tout le monde n'est pas forcément pour que les législations soient aussi permissives. Il y a même une vraie majorité de gens qui pensent qu'il faut mieux réguler. Est-ce que ça ne compte pas du tout? Est-ce que ça compte vraiment pour du beurre dans un État effectivement fédéral où de toute façon, un État comme le Texas, un autre comme la Floride resteront avec leurs propres lois? Mais quand même, est-ce qu'il peut se passer quelque chose sur le front de garder vos armes, mais revoyons au moins qui a le droit d'en avoir une?
Alors, déjà, il faut quand même souligner un point. Oui, il y a une majorité, selon les sondages, une majorité d'États-Unis qui sont favorables à des lois plus strictes, mais c'est une courte majorité. Selon un sondage Pew de fin 2021, c'est environ 53% contre 46%. On n'est pas vraiment sur une très large majorité, sauf sur des mesures qui sont très consensuelles, comme par exemple passer à une vérification fédérale des antécédents des acheteurs universelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus moyen d'acheter une arme, même en ligne, sur Internet, même dans le privé, sans vérification des antécédents par le FBI. Là, oui, sur cette mesure-là précise, par exemple, il y a un très large consensus, y compris chez les Républicains. Oui, mais, premièrement, cette mesure-là, elle n'empêcherait pas nécessairement parce que il y a des failles, il y a des incertitudes. Et deuxièmement, parce que elle ne remet pas en cause fondamentalement le droit d'acheter une arme très facilement. Et donc, c'est bien pour ça que les Républicains, qui sont évidemment, on le voit dans les sondages, vent debout contre des régulations trop strictes, soutiennent davantage cette vérification des antécédents qui resterait un premier pas très timide. Mais effectivement, même ce premier pas très timide, on n'y arrive pas depuis une décennie.
Et même un pas comme celui-ci d'ailleurs n'aurait probablement pas empêché cette tuerie-là. Ce qui est frappant, c'est que les profils se ressemblent, surtout quand les tireurs sont des ados ou des post-ados, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'un gamin qui ne va plus en cours, un gamin qui est désocialisé, qui est rejeté par ses camarades, il ne se passe rien. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il y a un vrai souci, quelque chose qu'on ne sait pas régler depuis plus d'une décennie, Corentin Célin?
Bien sûr, et c'est là aussi que le problème des armes à feu et de leur circulation aux États-Unis n'est qu'un révélateur parmi d'autres d'une démocratie qui part à volo et d'une démocratie qui a oublié d'être sociale, parce que concrètement, c'est aussi l'impossibilité d'accès à un soin psychiatrique public, gratuit, qui est aussi en jeu, c'est-à-dire que le système de santé public états-unien reste très défaillant, en particulier, c'est le cas par exemple là à Uvalde de toute évidence, pour des personnes qui sont en situation de précarité, et donc on voit converger dans ce problème des tueries de masse toutes les failles qui tendent à s'agrandir de la démocratie états-unienne. Tout ça marche ensemble.
Alors, je peux pas m'empêcher de constater également, faut-il le faire, que la tuerie de masse est un crime de blanc. Les armes circulent aussi parmi la population noire, c'est clair, on le voit dans les gangs, on le voit ailleurs, mais la tuerie de masse est un crime de blanc. C'est en tout cas ce que j'ai l'impression de constater. Est-ce que je me trompe ?
Disons que ces dernières années, effectivement, déjà, il faut aussi distinguer les tueries de masse des attentats terroristes qui ont été commis par des suprémacistes blancs, comme la semaine dernière à Buffalo. En 2015, on se souvient de Dylan Roof à Charleston, qui avait visé spécifiquement, lui aussi suprémaciste blanc, des Africains-Américains. Ce sont des véritables actes terroristes politiques motivés par une vision du monde raciste, etc. Pour le reste, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que ce sont très souvent des personnes en total décrochage social, complètement marginalisées. Dans le cas présent qui nous intéresse à Uvalde, ce qui est absolument terrible, c'est de constater que le tueur qui a été abattu par la police était très visiblement, d'après les premiers témoignages, un enfant martyr qui avait été martyrisé à l'école, qui était donc ça. Effectivement, il y a ce profil-là de décrochage social et d'une société qui ne parvient pas à au moins contrôler ces individus-là et à les soigner aussi.
Cette affaire, vous l'avez un peu souligné, c'est aussi l'affaire d'une lecture de la Constitution, et c'est là qu'elle nous ramène aussi, est-ce que vous disiez, au glissement vers un conservatisme de plus en plus fort dans ce pays. Est-ce que faut-il avoir cette lecture là aussi? Après tout, cette lecture très rigoriste de la Constitution, c'est aussi ce qui nous amène en ce moment au débat sur l'avortement, et pas seulement. Donc est-ce que tout cela participe de la même chose et du même ensemble? Est-ce qu'on le met dans le même groupe, cette tuerie là, les suivantes hélas probablement, et ce qui est en train de se passer dans le pays, à la Cour suprême, sur des sujets de société aussi importants que ce que traverse l'Amérique aujourd'hui?
Oui, c'est incontestable que, en tout cas, sur la circulation des armes à feu et sur la légitimation des armes à feu, la Cour suprême a une responsabilité écrasante, car il faut rappeler, du point de vue de l'histoire, que la Cour suprême n'a pas toujours reconnu un droit constitutionnel garanti pour chaque individu à posséder et à porter une arme. Ce n'est que depuis 2008, qu'en revirant une jurisprudence précédente qui était vieille de 70 ans, la Cour suprême a reconnu, a garanti un droit constitutionnel à posséder une arme. Et depuis lors, on a bien vu déjà une diffusion considérable des armes à feu, en particulier dans les États du Sud, sous la protection de cette nouvelle jurisprudence de la Cour suprême. Et surtout, en 2022, la Cour suprême s'apprête à préciser dans quelques jours, dans quelques semaines, dans un nouvel arrêt, sa jurisprudence, pour dire dans quelles conditions, pour faire vite, on peut transporter les armes à feu. Et de toute évidence, la majorité conservatrice va aller contre les États régulateurs, comme en l'occurrence l'État de New York, contre ceux qui essayent justement de limiter la circulation des armes à feu. Et on voit bien donc en ce sens, la Cour suprême porte une responsabilité très forte, et on est dans ce mouvement avec une majorité conservatrice de plus en plus radicale à la Cour suprême qui va à l'encontre, même si c'est peut-être moins net que dans le cas du droit à l'avortement, qui va à l'encontre de la majorité de la population.
Et qui donne des ailes peut-être effectivement aux tenants des armes à feu. On se souvient qu'après Sandy Hook notamment, il y avait eu une augmentation incroyable de la vente des armes, parce que beaucoup de gens ont imaginé qu'il y aurait des lois restrictives, donc ils ont augmenté leur consommation d'armes, j'allais le dire comme ça. Il s'est passé la même chose d'ailleurs pendant le confinement, parce qu'il y a eu cette espèce d'atmosphère pendant toute cette période-là qui a poussé les gens à s'armer. On a l'impression, en vous écoutant et en regardant les chiffres, tout simplement, Corentin Célin, que c'est une économie, en plus, qui se porte parfaitement bien, l'économie de l'armement aux États-Unis.
Oui, c'est une économie extrêmement forte et qui, de surcroît, les industriels des armes financent très largement les groupes de pression, les fameux lobbies, dont alors, le plus célèbre est la NRA, mais il ne faut pas limiter les groupes de pression pro-armes à la seule NRA, mais ils sont financés par une industrie de l'armement qui, de surcroît, bénéficie de protections légales, puisqu'ils ne peuvent pas être tenus responsables pour l'utilisation éventuellement délictueuse et en tout cas dans le cas des tueries de leurs armes. Et donc on voit bien qu'effectivement on a là un véritable secteur économique et qui en quelque sorte sait faire entendre ses intérêts au Congrès comme presque aucun autre.
Et en même temps, et ce sera la dernière question, Corentin Célin, on a bien vu que des parents de Sandy Hook avaient attaqué Remington, par exemple, qui est l'une des grandes marques. Et le fabricant a dû payer 73 millions de dollars. Ça l'a mis en partie en faillite, en partie ou complètement. Vous m'arrêterez si je me trompe. Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil à aller tirer peut-être de ce côté-là ?
Oui, mais le problème est que il y a une limitation justement par rapport à cela, et ça pourrait être on pourrait penser que ce soit la solution, mais ça nécessiterait là aussi que le Congrès légifère à nouveau, et on en revient plus au fait que le Congrès est totalement bloqué parce que pour les Républicains, il est aujourd'hui beaucoup plus avantageux, surtout au Sénat, de poser comme les défenseurs absolus de la liberté de posséder une arme, liberté qui a été reconnue en quelque sorte comme constitutionnelle par la Cour suprême depuis 2008, plutôt que, comme par le passé, de rechercher du consensus.
Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, merci beaucoup, Corentin, de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, ça se passe au Bénin, avec les près de 200 000 visiteurs qui sont venus voir les 26 œuvres d'art pillées et restituées tout récemment par la France. Énorme succès au point que l'exposition va revenir, et c'est Delphine Bousquet qui vous en parlera. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Le Zimbabwe, l'un des rares pays à voir sa population d'éléphants augmenter, ne sait plus quoi faire de ses stocks d'ivoire.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier en direct de Cannes. Corinne avec un petit bilan des films étrangers et le Cronenberg aussi qui sort en salle ce mercredi. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Il y a les morts très visibles, ceux du Texas, vous venez d'en parler, et des morts beaucoup moins visibles, les migrants en Méditerranée. On va examiner ce contraste.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Atlanta avec Cat Power. Papa Power, un titre revisité de Dead Man's Bones. C'est le groupe de Ryan Gosling sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
The streets, find the cars, how and why. Broken glass, but what about a broken heart?
venir sur le trône droit des autres.
Le bruit du monde, ce soir est au Bénin où s'est achevée la fameuse exposition des 26 œuvres d'art restituées par la France. Un très grand succès, 186 000 visiteurs pour voir ces objets royaux pillés par les Français en 1892 lors de la colonisation. Pendant trois mois, trônes, statues, portes du palais d'Abomey ont été montrées à la présidence, transformées en musée, aussi en galerie parce qu'il y avait une partie d'art contemporain. L'expo prendra à partir du 15 juillet devant le succès qu'elle a rencontré. Pour les Béninois, c'est un début de réappropriation. Ça n'est pas fini. Le reste, c'est Delphine Bousquet qui raconte.
La scène est inhabituelle dans une exposition de princesses, pagnes nouées sous les aisselles, se prosternent devant les trônes des rois Guézo et Glélé, leurs ancêtres. Tous les Béninois n'ont pas la même relation avec les trésors royaux non donnés à ces 26 pièces pour l'événement. Mais en suivant les visites guidées, tous éprouvent fierté et admiration devant les vitrines.
Le trône que nous avons en face de nous mesure 1,99 m et pèse 130 kilos.
Sandra est émue que la mémoire collective soit restaurée grâce à ses œuvres.
J'ai la chair de poule parce que je vois qu'elles sont à leur place. On peut maintenant refermer le cercle. C'est notre histoire, c'est notre héritage qui nous parle. Et cette histoire maintenant, elle est mise en valeur. Il faut être fier de cette histoire-là.
Ces objets portent aussi une culture. Beaucoup sont liés au vaudou, comme les boccio, statues en bois mi-homme, mi-animal, représentant les rois. Sylvia, venue avec sa sœur et leurs enfants, se sent reconnectée.
Chaque chose a sa force spirituelle. En tant que Béninois, nous venons de là. En fait, ça a été... Nos ancêtres, nos aïeux sont partis de là, ils se sont protégés avec ça, donc on vient de là.
Personne ne s'attendait à un tel succès, à de telles réactions, pas même Alain Godonou, commissaire de l'exposition et directeur du programme musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme.
C'est vraiment étonnant. Il y avait vraiment un manque, une soif, une attente de venir redécouvrir ce patrimoine et peut-être quelque chose de plus profond qui était de découvrir ce que nous étions.
Les plus jeunes peuvent désormais voir chez eux des témoignages de ce qu'ils apprennent à l'école. Marcel Agossou, professeur d'histoire, ne voulait pas rater l'occasion. Il a emmené 350 élèves de 3e et terminale du collège privé Saint-Jean-Baptiste à Cotonou.
L'histoire ne sera plus jamais la même par rapport à ces objets-là. Et déjà, vous avez remarqué au niveau de ces élèves ce sentiment de fierté qu'ils ont, qu'ils développent en eux.
Car cet art patrimonial montre la grandeur du passé et participe déjà à une forme de reconstruction. C'est ce qu'exprime Orlan, 14 ans.
Me dire qu'ils ont pu faire tout ça de leur propre, mais franchement, on a de l'intelligence, on n'est pas des personnes bêtes, mauvaises. C'est un bon pas pour nous vers le développement.
Johan a déjà visité des musées au Bénin, mais les lieux, les pièces exposées ne l'avaient pas intéressé.
Ce que j'avais la possibilité de voir ici ne m'avait pas impressionné à ce point. Genre, c'était vraiment des débris qui nous ont été laissés, donc ce n'était pas aussi fameux que ces trésors royaux. C'est la culture béninoise même qui a été déportée, qu'on a oubliée. Il faudrait raviver cette flamme de la culture chez les jeunes, chez nous en fait.
À Abomey, ancienne capitale du royaume du Danromé, où elles ont été pillées, ces œuvres ont toujours gardé leur caractère sacré. Dans cette petite ville au sud du Bénin, il y a toujours un roi, des palais et le panligan qui chante des louanges. Abomey, c'est la destination finale des 26 biens culturels. Pour Gabriel Béanzin, membre de la famille royale, c'est l'âme des défunts qui rentre. Et s'il se réjouit, il est prêt à attendre encore un peu.
Moi, je suis très heureux que je vis encore et que mes aïeux reviennent au pays. Pour venir ici à Abomey, il faut que le musée soit construit d'abord.
Construit à partir du site actuel au sein des palais royaux classés par l'UNESCO, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Danromé doit ouvrir fin 2024. Un musée où Bachalou Nandichao a été guide pendant plus de 30 ans. Descendant d'un roi, il préfère recevoir chez lui plutôt qu'au palais.
On va partir ensemble.
À 85 ans, son pas est fatigué, mais sa mémoire vive. Il connaît le sens et le rôle de chaque œuvre. Après leur exil, il faudra les accueillir.
Voilà. On ne sait pas si les objets voient comme autrefois. On ne sait pas si les objets peuvent parler. Raison pour laquelle on a besoin de faire une cérémonie, une fête de purification. Vous voyez, 130 ans n'est pas simple. Hein? et de retour dans une nation maintenant, et non un royaume.
Bonjour, bienvenue à l'Office de tourisme d'Abomey Région. Soyez les bienvenus, qu'est-ce qu'on peut pour vous ?
À l'Office du tourisme, le directeur Gabin Djimassé n'est pas entièrement satisfait. Membre de la commission qui a géré le processus avec la France, il rappelle que le Bénin veut d'autres pièces et les choisir.
Nous avons beaucoup d'autres œuvres qui nous paraissent plus importantes à récupérer, les hôtels portatifs, les récades, on n'en a pas besoin. On en a suffisamment ici. Et ce qui nous a le plus préoccupé, un, c'est le dieu Gou qui est au Louvre. Ensuite, nous avons parlé des éléments liés aux femmes guerrières ou à Gaudier. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu d'attributs liés à ces femmes guerrières. Alors que c'est la seule armée permanente du royaume.
Et cette position est largement partagée. Pour beaucoup de Béninois, ces 26 œuvres, ce n'est que le début de la restitution.
Merci beaucoup Delphine Bousquet pour le joli reportage avec donc une exposition qui reprendra à partir du 15 juillet devant son succès. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite c'est l'information internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Oula, nous sommes dans une réserve naturelle, Sébastien, nous sommes au Zimbabwe, qui ne sait plus quoi faire de ses éléphants et de son ivoire.
Oui, le Zimbabwe est l'un des très rares pays au monde, Fabienne, où la population des pachydermes augmente chaque année. Sur tout le continent, les éléphants d'Afrique, au contraire, sont officiellement menacés d'extinction, près de 90% en moins dans les dernières années, à cause du braconnage et de l'agriculture, mais au Zimbabwe, il n'en est rien. Le pays possède l'une des réserves les plus importantes au monde, 100 000 spécimens, une population qui vire à la surpopulation et qui n'est pas simple à gérer pour ce pays très pauvre. C'est d'abord dangereux pour la population, les habitants, 72 morts l'an dernier et surtout, il faut chaque année stocker des tonnes de défense d'éléphants, 163 000 tonnes d'ivoire interdits à la vente. On entend là le directeur général des parcs du Zimbabwe qui demande désormais à pouvoir vendre le stock d'ivoire du pays, entreposé dans des chambres fortes, une manne de 600 millions de dollars potentiels qui serait, dit-il, réservée aux habitants vivant près des réserves naturelles. Sauf que ce commerce d'ivoire est interdit depuis 30 ans, on le sait, pour protéger les éléphants et éviter le braconnage. Alors afin de lever ou d'assouplir cette interdiction, le Zimbabwe réunit cette semaine une conférence d'une quinzaine de pays, la première du genre avec le Botswana, la Namibie, les Seychelles, Madagascar, mais surtout la Chine et le Japon, où l'ivoire est très prisé. Un mini-sommet pour tenter de faire autoriser à nouveau ce commerce illégal. Un très mauvais signe envoyé aux organisations criminelles, dénoncent les ONG. La CITES, cet accord international vieux de 50 ans, chargé de veiller à la préservation des espèces menacées, a jusqu'ici toujours mis son veto.
Direction le Vietnam, avec l'histoire incroyable de ce cyberpirate devenu agent du gouvernement communiste.
C'est l'histoire méconnue d'un jeune hacker vietnamien devenu cybercriminel et dont le parcours en effet a tout d'un film d'espionnage. Ngo Minh Yeu, c'est son nom, est un prodige de l'informatique, passionné d'ordinateur depuis sa tendre enfance. À l'âge de 20 ans, il va devenir l'un des plus grands cybercriminels pour les États-Unis. Depuis son pays, le Vietnam, il va en effet pirater les noms, les numéros de sécu, les coordonnées bancaires de 200 millions de citoyens américains, revendant leurs données personnelles dans le monde entier après d'or et devenant un richissime cyberpirate. Pendant des années, raconte Ngo Minh Yeu qu'on entend, il va gagner des dizaines de milliers de dollars par mois, voitures de luxe, villas, vacances de luxe, mais en 2013, fin de la récréation, le FBI lui tend un piège et l'interpelle sur l'île de Guam sous administration américaine. La condamnation est lourde, 45 ans de prison, mais grâce à sa collaboration avec la police fédérale et sa bonne conduite, il est libéré et revient au Vietnam il y a 2 ans, en 2020, après 7 ans passés derrière les barreaux. À peine de retour dans son pays, il est rapidement recruté par le régime communiste. Aujourd'hui, il est chargé de traquer les cybercriminels, comme lui autrefois, au service donc d'un parti unique parmi les plus liberticides au monde. Ma vie, dit Ngo Minh Yeu, est un film, un studio de cinéma, l'a même déjà contacté.
Allez, en terminant, en Argentine, sur les traces du dragon de la mort.
C'est le nom donné par une équipe de paléontologues argentins à l'une des plus effrayantes créatures préhistoriques préhistoriques jamais découvertes. Des restes des premiers ossements ont été mis au jour en 2012 dans les roches de la cordillère des Andes. Et la semaine dernière, première mondiale, présentation enfin au public d'une reconstitution à l'échelle réelle. Présentation du Thanatos Dragon Amaru par son papa, le professeur Leonardo Ortiz. Le dragon de la mort est un reptile volant géant de la taille d'un bus, explique le paléontologue argentin. Ses ailes mesuraient 9 mètres d'envergure et son cou était semblable à celui d'une girafe, défiant les limites de notre compréhension biologique. Le dragon de la mort est l'un des premiers prédateurs à utiliser ses ailes pour chasser ses proies il y a environ 86 millions d'années, à la même période que le dinosaure. Le T-Rex, Fabienne, peut aller se rhabiller.
Il ne peut pas parce qu'il a des tout petits bras. Le T-Rex. Merci beaucoup Sébastien. À demain, bien sûr, vous partez avec Julie London. Black Coffee, une chanson écrite en 1948. Beaucoup de reprises. Cette version de la Californienne date de 1960.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. Talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving, a woman's born to weep and fret, to stay home and tend her oven and drown her past regrets and cigarettes. I'm mooning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight.
Le Black Coffee de Julie London sur France Inter. Le cinéma en VO, c'est tout de suite et c'est à Cannes avec Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ah, cette petite musique du Carnaval des Animaux au rendez-vous cinéma du mercredi à Cannes. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
À 3 jours, Corinne, du palmarès, on fait un peu le bilan avec vous des films étrangers en lice pour la Palme d'Or, les films les plus marquants pour ce qu'ils racontent, des préoccupations d'aujourd'hui en Roumanie, en Iran, en Égypte. Vous nous emmenez pour démarrer voir Boy from Heaven, c'est le nouveau film du cinéaste Tariq Saleh.
Voilà, un film autour d'un thème généralement assez tabou en Égypte, la corruption des élites religieuses et politiques, dans une histoire d'infiltration que l'on va suivre comme un thriller. Le personnage d'un jeune pêcheur, admis c'était son rêve à la prestigieuse école islamique d'Al-Azhar au Caire, et qui va se retrouver embarqué dans une lutte d'influence machiavélique au sein de l'institution. Il y a un petit côté Nom de la Rose, c'est un film brillant, esthétiquement réussi, tellement bien documenté également qu'on ne le verra jamais en Égypte. Tariq Saleh y est interdit de séjour à cause de son EDAS. Les décors que l'on voit dans le film d'ailleurs ont été tournés en Turquie.
Alors, autre ambiance, autre pays, la Belgique et les frères Dardenne. Corinne en lice pour une 3e Palme d'Or, ils s'attaquent cette fois-ci au thème de l'exil.
Voilà, l'histoire de Tori et Lokita, c'est le nom de leur film. Deux Africains venus du Bénin en Égypte, en Belgique, pardon, en espérant à des papiers une vie aussi un peu meilleure. Pas grand-chose d'extravagant. La plus âgée des deux ados, Lokita par exemple, voudrait juste décrocher une formation d'aide ménagère pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. Et au lieu de ça, eh bien, ce qu'il attend, c'est de la misère, de l'exploitation, de la maltraitance. C'est un film qui est fort parce qu'il donne un visage déjà évidemment très touchant à ce drame de l'exil et des réfugiés. Et puis parce qu'il nous force à regarder ces deux ados qui sont en lutte pour leur survie, tandis que la société les rejette sans vraiment la moindre forme d'empathie. Comme souvent chez les Dardenne, c'est un film avec très peu de moyens. Le résultat est brutal et le message, je vous garantis, reçu 5 sur 5.
Bucarest ? Bucarest ?
Non, non. Bucarest is over there.
Ah, West. West.
Non. West is that.
Ah. I don't know. From home, all is West.
Alors lui, c'est un autre habitué du festival, récompensé aussi d'une palme d'or, Christian Mounjou, qui explore avec son nouveau film RMN le populisme en Europe, à la hauteur d'un petit village en Roumanie, sur fond de racisme et de précarité. C'est un film qu'on devrait retrouver logiquement au palmarès pour le miroir qu'il nous tend et qui est absolument redoutable, révélateur un peu moche de la nature humaine.
Et leurs préoccupations aussi autour de l'avenir de la planète, Corinne, avec le maître de l'horreur David Cronenberg et ses crimes du futur.
It is time to stop seeing. It is time to listen.
On le pensait quasiment à la retraite, David Cronenberg. Eh bien, ça fait 8 ans qu'il n'avait pas fait de film. Et le voilà qui revient par la grande porte du festival avec un film d'anticipation un peu gore, mais très crédible sur le futur de notre espèce. Avec, comme souvent dans ses films, le corps humain comme terrain d'expérimentation. Il va falloir ici, par exemple, apprendre à manger du plastique pour survivre.
We have polluted the world.
On a pollué le monde et l'un de nos plus grands défis aujourd'hui, c'est la gestion du plastique dans une approche normale. On devrait se dire, ok, on réduit le plastique, on nettoie les océans, mais il y a des chances qu'on n'y arrive pas, car il est sans doute déjà beaucoup trop tard. Du coup, la question que je pose, c'est, et si on prenait le problème à l'envers, et si on produisait davantage de plastique pour l'utiliser autrement, en faire par exemple de la nourriture? En cas de succès, on réglerait ainsi les problèmes de malnutrition et de faim dans le monde. Le plastique deviendrait un nouveau super produit qu'on pourrait transformer en protéines, par exemple. Ça a l'air un peu farfelu comme ça, mais sur le papier, c'est possible. J'ai récemment lu qu'un groupe de scientifiques avait commencé à travailler sur le sujet, transformer du plastique en produit comestible.
Voilà, proposition portée dans le film Miam Miam par deux artistes performeurs, joués par Léa Seydoux, Viggo Mortensen, dans une ambiance un peu à la Mad Max, où l'on triture des corps, des boyaux pour exhiber de nouveaux organes qui permettront à l'homme de s'adapter en recyclant lui-même les déchets qu'il a créés. Un beau programme. Je suis sûre que vous avez hâte.
Mais j'ai envie de dire Burke, mais comme c'est un film France Inter, je ne vais pas le dire. Merci beaucoup Corinne Pellissier. Le palmarès, évidemment, c'est samedi. Une émission spéciale à suivre sur France Inter, je vous le dis déjà, avec Augustin Trapenard de 20h à 21h30. Corinne, joyeuse fin de festival.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, en ce jour où la tragédie de la tuerie au Texas, 19 enfants tués et 2 adultes, domine l'actualité, vous voulez attirer notre attention sur un autre drame simultané, 70 migrants portés disparus en Méditerranée. Évidemment, les deux événements n'ont rien à voir, mais vous êtes frappé par l'extrême visibilité du premier, l'extrême invisibilité du second, et c'est votre monde d'après.
C'était à l'aube, avant-hier matin, l'embarcation s'était lancée dans la nuit depuis Zouara, en Libye, à quelques kilomètres de la frontière tunisienne. À bord de ce canot pneumatique, une centaine de migrants originaires, selon les premiers témoignages, d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. L'embarcation clandestine a pris la direction des côtes italiennes, éloignée d'à peine 300 km, mais le pneumatique a chaviré. Un peu plus au nord, au large de Sfax, en Tunisie, les gardes-côtes tunisiens ont réussi hier à secourir 24 personnes. Il en manque plus de 70, seulement 5 corps ont été repêchés, les autres ne seront probablement jamais retrouvés. Des morts invisibles, leur dépouille gît au fond des eaux. À l'approche de l'été, avec l'amélioration des conditions météo, il n'est quasiment plus un jour sans que des migrants clandestins tentent à nouveau leur chance, objectif l'Europe, depuis les camps de transit de Libye où ils sont bloqués par milliers. Et avec la crise alimentaire qui menace toute une partie de l'Afrique, le mouvement ne va pas ralentir. Plusieurs naufrages ont été recensés depuis début mai. Celui d'hier est le plus meurtrier encore, c'est tristement factuel, que l'épouvantable tuerie du Texas qui se produisait donc au même moment.
Et en même temps, c'est un petit peu déplacé, peut-être de rapprocher, de comparer ces deux tragédies. tragédies, Jean-Marc.
Oui, oui, bien entendu. Comparaison n'est pas raison. Pas question de hiérarchiser ces deux tragédies, hein, entendons-nous bien. Des enfants assassinés dans une école comme au Texas, c'est une horreur. Il s'agit plutôt de dresser un constat à plat. Le drame du Texas est ultra visible, hyper médiatisé. Le drame de Méditerranée est quasi invisible, très peu traité dans les médias, même si on en parle ici même dans le journal de 18h. Alors pourquoi ? Examinons les explications possibles. C'est plus lointain ? Non, c'est l'inverse. La Tunisie est notre voisine, moins de 1000 km des côtes françaises, alors que 9000 km nous séparent de San Diego au Texas. Il y a plus de morts ? Non plus, c'est assez comparable. Les armes à feu aux États-Unis, comme les naufrages en Méditerranée, font des milliers de morts chaque année. Déjà 700 morts ou disparus dans des naufrages de migrants depuis le début de cette année. Plus de 30 000 en 8 ans. Oui, mais aux États-Unis, vous allez me dire, ce sont des enfants. Et l'horreur du Texas rappelle d'ailleurs celle de l'école de San Diego il y a 10 ans. Sauf que dans les embarcations de migrants aussi, il y a des enfants, nos rétines se souviennent encore de cette image frappante du corps du petit Elan en 2015, échoué sur une côte turque. Il y a quelques jours, lors d'une opération de sauvetage effectuée par le navire Ocean Viking, 6 femmes enceintes et un bébé de 3 mois ont été secourus. Selon Amnesty International, au moins 1300 enfants ont déjà péri en Méditerranée. Reste enfin la barbarie du meurtre de sang-froid perpétré au Texas. Elle frappe les esprits et c'est une différence réelle. Bien sûr, les morts en Méditerranée ne relèvent pas du meurtre de sang-froid. Mais il y a tout de même non-assistance à personne en danger puisque tout le monde en Europe sait que chaque jour ou presque des migrants vont prendre la mer.
Donc là, ce que vous voulez dire, Jean-Marc, c'est qu'on persiste à ne pas vouloir regarder le sujet en face.
Il y a quelque chose de ça. Hein. C'est en un sens plus facile de se concentrer sur la barbarie de la société américaine qui crée des tueurs d'enfants, plus facile et moins dérangeant que de se demander si nous aussi, Européens, on ne fait pas preuve de barbarie aux accents de surcroît racistes ou xénophobes. En refusant de regarder ces frères humains qui se noient dans notre mer commune, en refoulant les clandestins quand ils s'approchent de nos côtes, la Grèce l'a encore fait au début de cette semaine, 700 personnes refoulées, en laissant aux bateaux des ONG, l'Ocean Viking ou le Sea-Watch faire le boulot d'aide humanitaire, en transmettant la patate chaude des migrants à des pays tiers, la Libye, la Turquie et maintenant même le Rwanda, le choix de la sous-traitance. Le pacte asile et immigration promis par l'Europe est toujours au point mort. La présidence française de l'Union européenne a certes créé un conseil Schengen, mais elle n'a pas vraiment fait bouger les lignes, et la crise ukrainienne avec ses 6 millions de réfugiés a encore compliqué la donne. Alors c'est vrai, les États-Unis ne se grandissent pas à refuser de trouver des solutions pour éradiquer ces épouvantables tueries de masse qui les caractérisent, mais dans un autre genre, les Européens ne se grandissent pas non plus à repousser sans cesse au lendemain toute stratégie pérenne sur l'immigration, alors que des migrants continuent chaque jour de mourir à nos portes.
Jean-Marc Fauré, Le Monde d'après, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly. Bonne soirée avec nous sur France Inter.